web radio.
Stekaradio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
Pas l'heure de dormir là.
On est de retour sur Ceta Radio. Vous avez suivi, il va y avoir du sport. Quand même, un petit peu parlé de vélo il y a quelques instants. Hein. Julien, tu écoutais ça d'un œil attentif.
Hein. Ben, je vous entendais parler déjà. J'étais dans ma voiture, je vous écoutais. Et puis je dis, mais attendez, Radio Vélo n'a pas encore commencé. Donc on va pas tout dévoiler encore quand même là.
À mes côtés, Aymeric.
Et bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Bienvenue Philippe dans la team.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et en ce jour de Paris-Roubaix qu'on va refaire un petit peu dans tous les sens dans cette première demi-heure, nous allons commencer avec un premier invité, c'est bien notre cher chroniqueur Guillaume Robert de Matos Vélo et Cycloblog qui est avec nous. Guillaume, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Salut Guillaume. Ça, après ce périple parisien, roubaisien, toulousain.
Voilà, un petit périple pour aller en direct sur le Paris-Roubaix, le vif de l'intérieur, donc au sein du Team Europcar.
Donc tu étais dans une voiture Europcar pour représenter bien évidemment les cycloblogs Matos Vélo, c'est ça Guillaume?
Voilà, c'est ça, donc dans la voiture d'un directeur sportif, mais pas au sein de la course en fait.
D'accord.
Parce qu'en fait il y a un dispositif assez spécial sur le Paris-Roubaix, contrairement à d'autres courses où il y a des voitures de directeurs sportifs qui suivent la course. Là il y a une seule voiture de directeur sportif qui suit et qui est au cœur de la course. Et après, il y avait 7 voitures supplémentaires pour aller sur les différents secteurs pavés ou pour ravitailler les coureurs ou pour les dépanner en roue, etc. Donc voilà, j'ai passé ma journée à naviguer de secteur en secteur pour ravitailler les coureurs, les dépanner et vivre tout ça de l'intérieur.
Donc tous les à côté de la course, c'était la première fois que tu allais à Paris-Roubaix ou pas Guillaume?
Voilà, c'est la première fois, donc j'ai découvert hier les fameux pavés du Paris-Roubaix, de l'enfer du Nord, et je confirme, c'est bien l'enfer du Nord pour ceux qui ont jamais vu en vrai les pavés. C'est assez impressionnant, même en voiture, c'est assez impressionnant.
Qu'est-ce que c'est, Guillaume, excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce que c'est qui t'a, parce que tu dis que c'est impressionnant, mais l'image que tu retiendrais de cette journée-là, qu'est-ce que c'est qui t'a vraiment marqué, toi, et choqué?
La vitesse de passage des coureurs. C'est, ils rentrent là-dedans à 50 à l'heure, et quand même on y passe, nous, en voiture, donc on a fait quelques secteurs pavés, on y passait en voiture, même en voiture, je peux vous dire que ça secoue drôlement dans les voitures. À tel point, toi qui connais bien Julien la mécanique, il y a 2 voitures qui ont crevé sur des secteurs pavés tellement les pavés sont disjoints et tranchants. Il y a deux voitures dont Marc Madiot qui a crevé. Donc c'est pour vous dire les contraintes que ça engendre sur les vélos et sur les coureurs. Donc c'est vrai que c'est la vitesse de passage des coureurs, ils rentrent là-dedans. À 50 à l'heure pour ils essaient de maintenir la vitesse, de maintenir leur place, donc c'est
après comme on dit, c'est que plus tu passes vite, c'est comme quand tu fais de la descente en VTT, plus tu passes vite et plus tu vas rester sur la partie la plus haute du pavé, voilà. En termes de hauteur, et plus tu vas doucement et plus tu vas prendre les trous, les bosses, et tu subis davantage le pavé que quand tu vas vite. Donc mais après il faut être costaud pour passer vite quoi.
C'est ça le problème, il faut arriver à avoir la puissance, parce que rentrer vite à la limite c'est pas un souci, après faut avoir le gros moteur pour pouvoir maintenir du 40, 45, 50 à l'heure sur les pavés. C'est le plus difficile, je pense.
Faut véritablement avoir un moteur de TGV pour aller aussi vite. Plus sérieusement, Marc Madiot, quand même, il a la poisse. S'il a crevé sur Paris-Roubaix après l'accident du Tour des Flandres, il est peut-être content de ses vélos, mais des voitures un peu moins.
En plus, alors, pour la petite histoire, il y a même le directeur sportif d'Europcar, donc Dominique Arnoux, qui en plus vers la fin du Paris-Roubaix a percuté la voiture de Marc Madiot. Donc effectivement le trèfle en ce moment porte pas chance.
Et je crois qu'il va falloir ajouter
même côté coureur, ils ont pris leur lot de crevaisons je crois aussi.
Allez, on va en parler tout à l'heure. Philippe, tu avais une question pour Guillaume.
Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour le Paris-Roubaix, pour les voitures justement, par rapport au matériel, par rapport à la fixation des vélos, fixation des roues? Est-ce qu'on renforce un peu les fixations ou il y a des fixations spéciales pour que ça tienne effectivement quand c'est secoué sur les toits des voitures, sur les pavés? Est-ce que tu as remarqué quelque chose de spécial au niveau du matériel, au niveau du transport du matériel sur Paris-Roubaix?
Au niveau du transport du matériel, il n'y a rien de spécifique. Les vélos sont déjà très bien fixés d'habitude, donc là, il n'y a rien de plus. Après, il y a juste au niveau des voitures, je sais qu'ils en équipent certaines de protection de carter.
Oui.
Mais voilà, après, au niveau fixation de vélo, il y a...
ASO, je sais qu'ASO le fait ça aussi. Mais...
Voilà, et même les directeurs sportifs le font, parce qu'en fait, c'est vrai que les secteurs pavés sont très bombés. Donc même les voitures essayent de rouler soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, pas au milieu parce que ça touche. Mais bon, des fois, ils passent très très vite, donc ça arrive à toucher parfois, donc ils mettent des protections de carter.
Au niveau de l'équipe Europcar, j'imagine qu'on est relié eh bien un petit peu quand même à tout ce qui se passe au sein de l'équipe, même quand on est dans une voiture qui est un petit peu à l'écart du peloton. Guillaume, comment s'est passée la journée du côté d'Europcar? Est-ce que tu as eu quand même un sentiment, j'imagine, sur l'ensemble de la journée, même sur le bilan? J'imagine que tu as quand même pu partager un petit peu ça avec eux.
Oui, donc effectivement, on est relié en direct déjà avec Radio Tour. Avec aussi le directeur sportif Dominique Arnaud qui parle dans les oreillettes, donc on peut vivre ça, surtout que la région entre Compiègne et Roubaix est assez plate, donc on arrive à capter très loin, même quand on est à 5-6 km on arrive à capter. Donc très bonne prestation, plutôt content de l'équipe. Yannick Martinez aussi qui a fait une très bonne prestation. Après c'est vrai qu'il y a eu des chutes aussi, mais ça c'est malheureusement ça touche tout le monde. Des crevaisons aussi, pas beaucoup, mais 2-3 crevaisons. Donc mais après ils étaient plutôt satisfaits dans l'ensemble. Après ils n'ont pas réellement d'ambition vraiment de remporter la course. Après c'était soit ils prenaient la bonne échappée ou pas. Donc après ça s'est pas vraiment fait comme ils l'espéraient, mais bon, plutôt content dans l'ensemble.
Bon, plutôt content dans l'ensemble. Est-ce qu'on a une autre question?
Ouais, question importante. Et comment ne pas lui poser? Côté matériel vélo. Parce que, à un moment donné, Paris-Roubaix, c'est une course atypique. Et je pense que tu as dû voir des choses que tu vois pas habituellement.
Ah oui, c'est effectivement. Donc, du côté d'Europcar, pas trop de surprises. Voilà, du boyau en 28 mm.
Qui c'est qui fournit?
C'est Hutchinson.
D'accord.
Donc, qui fournit la marque française. Après, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est plutôt du côté de Yam Cycling, Sylvain Chavanel, qui roulait avec son vélo de cyclocross, et qui utilisait des tubeless de 30 mm. Donc, je crois que c'est une des seules équipes qui était équipée en tubeless. Donc, et après, les sections en général sur Paris-Roubaix, c'est là où c'est vraiment spécifique. Voilà, c'est du 28-30 mm. Bon, plus souvent 28 mm, mais certains coureurs allaient jusqu'à 30 mm. Et ensuite, au niveau des braquets, souvent des petits plateaux de 44 ou 46 dents. Parce que c'est vrai que c'est assez plat et il faut maintenir la vitesse. Donc,
d'accord.
C'est vraiment...
Au niveau des freins, des guidolines, est-ce qu'il y en a, je sais qu'ils doublent les guidolines, au niveau des freins, là, qui adaptent un petit peu?
Voilà, alors là, j'ai beaucoup discuté avec les mécanos d'Europcar. D'ailleurs, même pour eux, c'est une course atypique. C'est vraiment là où ils ont le plus de travail dans l'année. Donc là, c'est à la demande du coureur. C'est vrai que certains coureurs aiment bien avoir deux guidolines, d'autres une seule, ça leur suffit. Donc là, c'est vraiment en fonction du coureur. Certains, effectivement, rajouter aussi des leviers de frein cyclocross pour pouvoir freiner avec les mains en haut du cintre. Donc, mais là, c'est vraiment en fonction de chaque coureur. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Après, voilà, la règle générale, c'est des boyaux de 28 mm qui vont flé entre 4 et 5 bars en général.
Et au niveau des profils des roues, bon, on a vu plus des jantes plates, des 24 que des grosses roues quand même.
Ouais, j'ai quand même vu beaucoup de 50 mm étonnamment. Eurocar, ils utilisaient quasiment tous des Campagnolo Bora de 50 mm. Après, là, apparemment, ce qu'ils ont décidé là-dessus, c'est le temps sec et le vent qui était très favorable. Donc, ils savaient que ça allait rouler très très vite. Et donc là, effectivement, des roues de 50 mm étaient plutôt adaptées à ce type de temps.
Philippe, une question.
Oui, moi j'aurais une autre question. Effectivement, au niveau des mécanos sur Paris-Roubaix, est-ce que par rapport au vélo, il y a un travail qui a à faire pendant la course? Si le coureur n'a pas de problème, bien sûr, s'il crève, on pense qu'il va changer la roue. Mais étant donné que c'est Paris-Roubaix, est-ce que même s'il n'a pas de problème, il faut quand même que les mécanos interviennent ou il ne doit pas intervenir, par exemple, pour régler un dérailleur, pour regresser une chaîne? Est-ce qu'il y a des interventions à faire pour les gens qui n'ont pas de problème sur Paris-Roubaix?
Non, voilà, il y a vraiment qu'en cas de souci. Après, maintenant, les vélos, même s'ils sont soumis à rude épreuve, ils sont capables de tenir les 250 km de la course sans aucun souci. Donc, sauf chute ou crevaison, le mécano n'intervient pas. Mais c'est quand même une journée très intense pour eux, même nerveusement, parce que c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de pépins. C'est la seule course où le dispositif Europcar, il y avait 7 voitures en plus, où on allait à sortie de chaque secteur avec des roues en dépannage, parce que le directeur sportif qui est dans la course ne peut pas suivre les coureurs sur les secteurs pavés. Il n'y a que les motos neutres de chez Mavic. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas d'intervention spécifique du mécano.
Donc tu connais vraiment tous les petits chemins du Nord-Pas-de-Calais?
Tous peut-être pas. Par contre, chapeau au directeur sportif qui nous conduisait.
Oui.
Parce que pour aller d'un secteur pavé à l'autre, il y a les circulations, etc. Là, c'est des routes ouvertes. Et puis voilà, faut connaître toutes les petites routes. Les gens conduisent et en même temps ils lisent une carte et tout pour savoir où est-ce qu'il faut passer. C'est un boulot quand même titanesque. Parce qu'en plus voilà, faut en même temps s'occuper un peu de la stratégie en course, etc. C'est vraiment un sacré taf.
Bon, eh bien, j'imagine qu'on aura le compte rendu, quelques photos sur les sites Cycloblog, Matos Vélo, Guillaume.
C'est ça, là je suis en vacances, mais il y aura quand même des photos dans la semaine qui vont venir.
Bon, ben on va suivre tout ça. On te remercie et puis on va appeler un juge arbitre de la FFC qui a l'habitude d'être sur les courses dans quelques instants pour parler de cette histoire de TGV. Guillaume, toi tu n'as pas été bloqué?
Non, j'ai pas été bloqué. Après nous on l'a vu parce qu'on avait la télé dans la voiture, on l'a vu. Mais non, on n'a pas été bloqué, on n'était pas sur cette route-là.
Bon, mais très bien. On te dit à très bientôt, Guillaume, dans Radio Vélo.
Eh bien, merci, bonne soirée à vous, puis à lundi prochain.
À lundi prochain, ça marche. Salut. Ciao.
Au revoir.
Et on continue donc Radio Vélo avec Julien qui va donc passer un petit coup de fil à Philippe Bessette qui est juge arbitre FFC
qui est arbitre national FFC.
National carrément.
Qui était sur le circuit des Ardennes ces jours-ci.
Okay, ben on va lui demander ce qu'il en a passé aussi du circuit des Ardennes. À 20h25, on aura Baptiste Boutier, cofondateur de Vélo Chrono, le site qui a attiré sa révérence. J'imagine que tu avais la larme à l'œil, Aymeric, mardi dernier en lisant ça.
Ouais, quand j'ai vu ça le matin, merde. Ce qui se passe. On n'est plus le premier, c'est plus une blague.
Non, donc.
Et un sacré page qui se tourne pour le petit monde du vélo en France, quoi. Parce que oui, c'est à ce niveau-là, on parle là ils avaient un suivi national quand même.
Ça va manquer, en tout cas, au niveau du cyclisme pro pour cette qualité. Philippe, une petite rétro dans quelques instants, hein, bien évidemment. Mais avant cela, on va avoir Philippe Bessette.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure. Vous parliez de cette histoire de TGV, de train, de course, un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des règlements qui ont été établis par la Fédération française de cyclisme, où ça fait partie de faits de course. Et dans un cas comme ça, normalement, on doit appliquer une stratégie. Donc, je tenais à ce qu'il soit avec nous ce soir, Philippe Bessette, qui est notre arbitre. Moi, je disais international parce qu'il a tout à fait la carrure, mais il est pour l'instant que arbitre national FFC. Il était ce week-end-ci sur le circuit des Ardennes. Il sera à la Ronde de l'Isard dans un peu de temps. Bonsoir Philippe, comment ça va?
Oui, bonsoir à tous, ça va très bien et vous?
Eh bien ça va, donc on évoquait déjà ce problème de passage à niveau. Il y a une règle qui est bien précise au niveau de la FFC, avec plusieurs cas de figure. Est-ce que tu peux vite fait nous les rappeler?
Oui, tout à fait. Alors d'abord la première règle, c'est que dès que le passage à niveau se ferme, c'est-à-dire que le feu est clignotant, tous les coureurs doivent s'arrêter. S'ils ne s'arrêtent pas, les coureurs sont mis hors course immédiatement.
D'accord, quel que soit...
Voilà, donc ça c'est la règle officielle. Donc après la règle par rapport aux échappés et aux pelotons, alors quand une échappée a plus de 30 secondes d'avance et qu'elle est arrêtée par un passage à niveau, si le peloton rattrape l'échappée, alors la course est neutralisée et on repart avec les mêmes écarts avant le passage à niveau. Donc ça c'est la règle. Et s'il y a moins de 30 secondes d'écart, donc l'échappée vient de se faire, alors si le peloton revient sur les échappées, alors c'est un fait de course et tout le monde repart groupé.
D'accord, là, là on est dans un cas de figure où on a des échappés qui ont 4 minutes, si je ne me trompe pas, 4 minutes et quelques d'avance dans ces eaux-là,
encore 6
ou 5 ou 6 minutes. On a donc le peloton qui arrive avec le... Alors c'est vrai que derrière la télé, c'est pas forcément évident de savoir si ça, déjà, ça s'est déjà allumé, si ça sonne. À ce moment-là, le passage à niveau, ben, il se ferme, des coureurs qui passent, normalement c'est mise hors course.
Voilà, si, alors, si ça s'est fermé avant, largement avant le peloton, c'est-à-dire qu'il aurait eu le temps de s'arrêter, ici je ne sais pas si c'est exactement le cas, alors c'est mise hors course.
Là, ils ont jugé, en tout cas, les organisateurs, que le peloton n'avait pas le temps de s'arrêter. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sanction donc pendant la course. Mais après, c'est bien évidemment, c'est les organisateurs, c'est avec les juges arbitres que ça s'organise, tout ça, la décision, Philippe, en général.
C'est en discussion entre les organisateurs et les commissaires, tout à fait.
D'accord. Après, bien évidemment, les images télé étant là, ça prend de suite de plus grandes proportions et surtout le fait qu'une partie du peloton se soit arrêtée et qu'après, ben, il y a eu ce milieu du peloton où certains avaient un petit peu le choix parce qu'ils avaient finalement le temps de s'arrêter ou pas. Et c'est peut-être ceux-là qui peuvent être, avoir des ennuis.
Au niveau de la course en elle-même, ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau du déroulement.
Non, parce qu'on était loin.
De toute façon, en plus, la tête de peloton qui était passée a été ralentie. Par la direction de course ensuite.
Il restait 2 heures
de course. Pour attendre ceux qui avaient été effectivement bloqués par le passage à niveau. Donc non, en termes de course, ça a redonné 30 secondes à l'échappée qui avait déjà 6 minutes, ça n'a pas changé grand-chose et ils ont été repris quand même. Non, en termes de déroulé de la course, c'était rien quoi.
C'est simplement qu'au niveau réglementation, il y a un règlement qui est appliqué par la FFC et que peut-être que voilà. Tu as eu toi déjà des cas comme ça particuliers à gérer en tant qu'arbitre, Philippe?
Il me semble que c'était avec toi sur une ronde de l'Isard il y a 3 ou 4 ans.
Oui, exact, oui.
Il y en a eu plusieurs cette année-là, oui.
Et c'était à peu près le même cas. Je crois que l'échappée était passée ou ça s'est refermé sur l'échappée.
Ça s'est refermé sur l'échappée, je me souviens.
Voilà, et on avait neutralisé la course quelques kilomètres plus loin et reparti avec les mêmes écarts.
C'était le vendredi, je dois voir la photo, hein. Je vais peut-être la mettre sur le site.
Oui, tu as raison, exact. Je me souviens maintenant que tu dis ça. Ouais.
Et je me souviens que le train était de 1997, non, je déconne. Mais bon, en tout cas, ouais, je me souviens très bien, et c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement, même si à Toulouse on n'a pas la LGV, hein, forcément, mais bon. En tout cas, ce sont des faits de course. Est-ce que ça fait partie des faits de course les plus compliqués à gérer ou pas forcément? Et c'est surtout, en fait, le fait qu'il y ait la télé, que ce soit à Paris-Roubaix, que ça a été médiatisé, Philippe?
C'est toujours un peu particulier parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va vraiment se fermer, si ça se ferme sur le peloton. C'est souvent, on le prévoit ce cas-là, donc il y a toujours un commissaire qui s'arrête, normalement avec quelqu'un de l'organisation, mais quand ça arrive juste au moment précis, ça reste compliqué, quoi.
Bon, ben, en tout cas, merci Philippe d'être passé dans Radio Vélo pour évoquer ce sujet, renseigner un petit peu les gens, donner un petit peu des informations complémentaires. Julien, par contre, avant de faire la petite coupure, peut-être demander à Philippe comment il a vu les dernières courses où il est allé.
Ben oui, il était sur le circuit des Ardennes, donc il a vu les coureurs de la Pomme Marseille. Je me trompe pas, c'est bien ça. Comment ça s'est passé là-haut?
Donc ça s'est très bien passé. Hein. Donc tout s'est joué en gros sur le contre-la-montre par équipe.
Et justement, quand on parle de feu de course, il y a eu un feu de course puisque l'équipe
de l'armée de terre
a été mise hors course.
Tout à fait, mais pour une erreur de parcours. Donc pas volontaire, mais sur une voiture civile s'est intercalée durant la course. Donc les coureurs ont suivi la voiture civile. Qui a pris un raccourci en fait. Donc ils se sont retrouvés avec environ 1 km de moins parcouru. Donc pour l'étape de l'après-midi, ils ont été meilleure course pour pas fausser le classement général, quoi.
D'accord.
Bon, et bien en tout cas, ça, c'est vrai que c'est toujours un rendez-vous important, cette épreuve. Philippe, tu as des courses là cette semaine?
Non, cette semaine rien. Après. La prochaine course, la ronde de l'Isard, il me semble.
Bon, et bien, on pourra en discuter.
Ça sera les vacances, ça va, surtout.
C'est du boulot en tout cas.
Merci Phil.
Et c'est encore un métier essentiel,
oui,
un métier de l'ombre.
C'est très particulier, oui.
Mais il y a d'énormes responsabilités, bien évidemment, pour tout un tas de métiers dans le cyclisme. À bientôt, Philippe, dans Radio Vélo.
À bientôt, merci.
Merci,
à bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir. Et donc, c'était Philippe Bessette, arbitre national FFC d'un Radio Vélo. Ben, on va faire notre première coupure, Philippe, et après, on parlera, et bien, on fera la rétro, bien sûr, mais à l'instant, on aura notre ami Baptiste de Vélo Chrono, parce que oui, Vélo Chrono a fermé ses portes. Est-ce que c'est l'heure de la coupure?
C'est l'heure, oui, c'est l'heure.
Bon, allez, petite coupure, et on revient tout de suite après, juste le temps de se ravitailler.
C'est ta radio. L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Qu'est-ce qu'on fait, on y revient, Nico?
Et oui, de retour en direct.
Une semaine de vacances, il ne faut pas perdre de bonnes habitudes, là.
Mais oui, mais il fallait prendre un petit peu de recul pendant cette semaine de vacances avec ce Paris-Roubaix, avec le Tour des Flandres juste avant. Mais entre les deux, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le 1er avril, certes, mais il y a surtout eu l'arrêt de Vélo Chrono. La nouvelle est tombée rapidement, c'était mardi dernier, avec eh bien, l'annonce, Emery, que tu as découvert, toi, notamment, toi qui es un lecteur.
Ouais, ouais, on est tombé. Ben c'était mardi matin, en faisant le petit tour quotidien du matin sur Vélo Chrono, ben, voilà, sur l'article qui dit qu'ils arrêtent.
Alors Baptiste,
c'était un peu tard pour un 1er avril, alors on a bien été obligé d'y croire, quoi.
Baptiste Boutier,
moi je mets ça comme chanson, hein.
Qui fait partie des... il entend pas la chanson, il l'entendra dans le podcast,
mais je l'allumais quand même.
Baptiste Boutier, donc, de Vélo Chrono, qui est l'un des cofondateurs du site avec Alexandre et toute l'équipe. Baptiste, alors, cette annonce, on imagine que depuis, il y a eu pas mal d'échos, de commentaires.
Énormément, énormément. Et bonsoir à tous. Et ça fait très plaisir, ça fait très chaud au cœur. En 5 ans d'existence, on avait eu souvent quand même l'occasion de voir que notre travail pouvait être apprécié, pouvait plaire, et on avait eu déjà pas mal de commentaires positifs. Mais c'est vrai que forcément quand on arrête comme ça, c'est l'occasion fait de larron et tout le monde se met à te féliciter. Et c'est vrai que voilà, on a eu énormément de messages, que ce soit sur le site, sur Twitter, sur Facebook, par mail, un peu partout sur des forums. J'ai vu aussi que sur le forum des forums un peu connus, Sud Vélo Club par exemple, il y avait eu pas mal de messages. Ça fait évidemment hyper, hyper chaud au cœur.
Et la question mais qui revient essentiellement, je crois, de la part des lecteurs, c'est pourquoi ça s'arrête? Ils ne comprennent pas, les gens, pourquoi ça s'arrête alors que ben, tout le monde aimait bien ceci, tout le monde le regardait. C'est vrai que les lecteurs ne sont pas derrière le backstage, c'est-à-dire avec tous ceux qui écrivent, tous ceux qui gèrent, qui se creusent la tête. Alors pourquoi ça s'arrête, Baptiste?
Ben ça s'arrête parce que on a tous, voilà, c'est Vélo Chrono, c'est un site, tu sais très bien, Nico, parce que tu as écrit, tu as participé toi aussi. C'est un site entièrement bénévole et géré, en tout cas pour la partie rédactionnelle, essentiellement, géré entièrement par deux personnes, à savoir Alexandre Philippon et moi. Même si on était plus que ça au sein de la rédaction, c'est Alexandre et moi qui prenions l'ensemble, qui gérions, disons, le site, son actualité, son agenda, et puis la répartition des articles et la rédaction de la majeure partie des papiers aussi, il faut bien le dire. Et voilà, ça faisait 5 ans que ça existait, mais tous, autant qu'on était dans l'équipe, et à commencer par Alexandre et moi, on avait tous un travail en parallèle. Vélo Chrono, pour nous, c'était un passe-temps, un loisir, une passion. Voilà, à force que les mois, les années passent, et ben on a de moins en moins d'énergie, de moins en moins de temps, de moins en moins de volonté et de motivation à tous les jours pondre de nouveaux articles, tous les jours avoir de nouvelles idées, tous les jours se réinventer, proposer des choses qui soient intéressantes, innovantes, à la fois liées à l'actualité, parce que c'est important sur un site internet qui veut avoir une production régulière, et en même temps pas trop collée à elle, puisque avec Vélo Chrono on avait quand même l'ambition de proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, des choses qu'on lisait pas ailleurs, en tout cas même modestement, bien sûr, on n'a pas réinventé le journalisme, mais voilà, en tout cas de proposer quelque chose qui soit voilà, qu'on ne lisait pas ailleurs sur le vélo, et on a essayé, je pense qu'on a à peu près réussi à le faire pendant 5 ans. Et là, depuis janvier, on était reparti sur une nouvelle formule qu'on voulait plus light. En fait, on voulait faire moins mais mieux. Et au bout de 3 mois, on a fait le bilan assez rapide avec Alex, qui était qu'on faisait moins, mais on faisait pas forcément mieux. Et du coup, on s'est dit que plutôt que de continuer à tirer la jambe comme ça toute la saison, à passer les classiques, le Giro, le Tour, en serrant les dents et en étant en galère, en étant sans cesse derrière le groupe Eto, même pas à l'intérieur, on s'est dit qu'il valait mieux jeter l'éponge tout de suite plutôt que de d'étioler ce qu'on avait construit pendant 5 ans. Et on se disait que voilà, fallait pas faire l'étape de trop.
Julien.
Ouais, mais bonsoir Baptiste. Moi, je suis ouais, voilà, c'est une aventure que comme nous à la radio pareil, hein, qu'on veut lancer, qu'on veut voir grandir, etc. Puis à un moment donné ça nous dépasse parce que ça prend beaucoup d'ampleur, et je pense que c'est votre cas aussi. Et c'est vrai que soit ça passe le cap au-dessus avec être salarié et vraiment être à temps plein. Maintenant, comme tu le dis, on a tous chacun un travail. Et aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué d'arriver à être rémunéré sur des choses comme ça. Pour autant, avoir fait un super site qui marche au top, c'est là où des fois on peut ne pas comprendre que ça soit du bénévolat comme tu le disais. On se dit mais c'est pas possible quoi. Et comment ça se fait qu'on n'ait pas pu avoir des gens qui soient venus derrière pour mettre un petit peu la main à la poche.
Mais parce que ça aurait pu être pareil à mon avis. C'est comme la radio là. C'est vrai, quand on va être acheté par les Qataris, Julien, ça sera plus pareil. Il y aura plus cette liberté. Parce que pour moi, le bénévolat et la passion, c'est aussi associé à la liberté. Et c'est vrai que tous les autres sites et qui parlent de vélo, mais de façon un peu différente et peut-être un peu moins passionnée, et qui ont pu devenir professionnels, c'est ça qui est difficile avec le vélo. J'ai l'impression que c'est spécifique au cyclisme. C'est quoi, Baptiste ?
Non, écoute, c'est parce qu'on est un peu le nez dans le guidon qu'on voit que le vélo, mais en réalité,
Oui, voilà, le volley, le handball, c'est difficile de faire un site aussi.
Même n'importe quelle niche, et même en fait l'information en général. Enfin voilà, de toute façon le modèle économique de la presse en ligne, il est permanent. D'ailleurs, c'est pour ça que l'argent, bien sûr, c'est quelque chose qui compte, qui a compté pour nous. Mais honnêtement, si on avait dû arrêter Vélo Chrono à cause de l'argent, on l'aurait fermé il y a 5 ans, pas la semaine dernière. Ça n'a jamais été un vrai enjeu pour nous. On avait compris avant même de lancer le site, que de toute façon, on ferait pas d'argent avec Vélo Chrono. On a gagné un peu de sous avec la pub, qui nous ont permis de financer le serveur, qui nous ont permis de payer l'hébergement. Il y a un Noël, je me rappelle, on avait tous eu 40 euros de chèque cadeau à la Fnac. Voilà, donc c'est tout l'argent qu'on a pu gagner avec Vélo Chrono. Je suis une transparence totale. Le reste, c'est du pur bénévolat. Mais on le savait d'avance. C'est pas vraiment un enjeu. Après, voilà, on savait qu'on jamais on gagnerait d'argent avec ça, et quelque part, tous les sites galèrent, tous les sites qui donnent une information gratuite, dont le modèle économique est uniquement basé sur la publicité, sans abonnement, galèrent. C'est pas particulièrement une découverte, et je pense pas du tout qu'il faut penser que ce soit réservé qu'au cyclisme.
Non, après c'est vrai que c'est pas une question de gagner d'argent, mais bon, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps, quoi qu'on fasse aujourd'hui. On a tous des métiers où on est à bloc, ça prend beaucoup de temps si on veut faire les choses correctement. Et c'est vrai que à un moment donné, il y a des choix à faire, et moi je comprends tout à fait votre situation. Et alors, c'est pour ça que je dis que bon, c'est peut-être pas forcément l'argent qui aurait peut-être fait que ça continue ou quoi que ce soit, mais quelque part, des fois, ça peut dégager du temps ou des libertés qui peuvent faire qu'on peut plus se concentrer. Mais bon, après, c'est compliqué, chacun a sa vie de famille, c'est particulier, quoi.
Voilà, et puis, quand on a lancé le site avec Alexandre et avec quelques autres, on était plus jeunes, et oui. Logique, on était étudiants aussi. Et voilà, longtemps on a pu générer du temps grâce à ça. Puis il y avait la passion du début, il y avait l'énergie, la motivation de voir que ça marchait, etc. Puis le temps a passé, on a tous commencé à travailler, on s'est installé durablement dans nos boulots. La passion est restée intacte, mais la motivation, forcément, au fil des années, elle s'est fait un peu plus, c'est tassé, quoi. Non, ce qui est un peu logique. Et voilà, au bout d'un moment. Encore une fois, c'est pas particulièrement l'argent qui a compté, mais c'est vrai qu'évidemment, si on avait pu se créer des emplois en fait en lançant Vélo Chrono, et tous avoir un emploi dans Vélo Chrono grâce à ça, pouvoir se verser des salaires, peut-être le site n'aurait pas fermé, peut-être qu'on serait pas tous en train de travailler à côté, on aurait lancé une vraie rédaction dans un lieu physique tous ensemble, ce qui a jamais été le cas évidemment. On était une rédaction 100% web. Bon, les choses auraient été différentes, mais
c'est extrêmement compliqué. De toute façon, même sur, il suffit de regarder même la presse papier où, où pour le coup le modèle économique est mieux installé et où il y a des rédactions qui se créent, des magazines, etc. Les rédactions des magazines papier sur le cyclisme sont très réduites parce que bah, ça reste pour le coup une niche et où qu'on puisse générer de l'argent, verser des salaires, avoir un modèle économique qui marche, être rentable, c'est compliqué.
Philippe.
Oui, effectivement, c'est une nouvelle qui m'attriste, effectivement. Mais moi, je garderai quand même quelque chose parce qu'effectivement, j'ai quand même imprimé certains articles de Vélo Chrono que je garderai dans mes archives. Et donc, ça continuera à me servir pour mes rétros parce qu'effectivement, il y avait très très bons articles et certains, je les ai imprimés. Donc, c'était sur Internet et c'est resté chez moi sur papier et voilà. Parce qu'effectivement, c'est.
Il y a Baptiste.
Moi, je travaille un peu à l'ancienne et j'imprime tout sur papier, ce qui m'intéresse.
Et ben, d'ailleurs, Europe Écologie te remercie de travailler à l'ancienne, Philippe. Mais,
savoir quel papier.
Quel papier, savoir, Baptiste.
Oh, du papier à quatre classiques.
Quels articles,
effectivement. Des articles sur les coureurs, effectivement, sur les, parce que moi, j'ai des classeurs où c'est classé coureur par coureur, et quand il y avait un article intéressant sur un coureur, effectivement, eh ben, je l'ai imprimé pour avoir des informations sur ce coureur-là. Voilà. En particulier, je me rappelle, malheureusement, un grand coureur qui était décédé où j'avais imprimé cet article-là, mais j'en ai d'autres, effectivement, que j'ai imprimé. Donc, voilà. Ça côtoie des articles que j'ai pu avoir dans Miroir du cyclisme, dans l'équipe. Voilà, en bonne compagnie, vous êtes.
Voilà, donc bah quand même, tu nous ramèneras les copies, qu'on puisse dire à Baptiste. Aymeric,
pas de problème. Ouais, j'aimerais savoir si, même si c'est pas un site, même si c'est pas, on va dire, aussi structuré, la suite, on va continuer à vous voir traîner dans le milieu du vélo, de près, de loin. Il y a un petit groupe Facebook qui s'est déjà monté, mais ouais. qui est plus là, on va dire, pour maintenir l'état d'esprit, en attendant de voir si quelque chose se fait ou pas. Il y a des projets, des idées déjà.
Oui, nous, dans Radio Vélo, on recherche des consultants, donc il est le bienvenu. Hein.
Voilà, au PIF, par exemple.
Bah, Nico sait que il m'a monté. Nico a mon numéro de téléphone, hein, donc il sait que je suis dispo. Il sait qu'Alexandre est timide et qu'il a du mal à parler à la radio. Mais
c'est vrai.
Moi, je suis un peu plus ouvert. À ce niveau-là.
Il nous a fait croire qu'il travaille à cette heure-là, quand même.
Voilà, tu peux y croire.
Il est malin.
C'est comme d'hab. Hein, de toute façon, il me refilait tout le boulot déjà. Non, mais il n'y a pas vraiment de projet. On n'a pas arrêté au bout de 5 ans et 3 mois à porter le site à bout de bras. On n'a pas arrêté pour recommencer quelque chose le lendemain. On a arrêté parce qu'on avait une sorte de, enfin, qu'on en avait un peu marre aussi. Enfin, il y avait un côté comme ça où il fallait qu'on arrête, qu'on passe à autre chose. Et comme disait Alexandre dans le groupe, justement, donc il y a un groupe Facebook qui s'est créé que j'invite. S'il y a des lecteurs de Vélo Chrono qui nous écoutent, il y a un groupe Facebook qui s'est créé qui s'appelle Communauté de Vélo Chrono, dont le but est un peu de reproduire les débats qu'il pouvait y avoir dans les commentaires au pied des articles, qui était un espace que beaucoup de nos lecteurs appréciaient. Et comme on l'a expliqué dans ce groupe, voilà, nous, entre guillemets, on est en vacances, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour tout de suite reproduire quelque chose. Après, la passion reste. Moi, j'étais évidemment devant Paris-Roubaix hier. Ceux qui me suivent sur Twitter ont pu le constater, j'ai beaucoup tweeté. Le compte Vélo Chrono de Twitter reste actif aussi. Donc on va un peu tweeter au gré de nos envies ce qu'on voudra sur ce compte-là, sans obligation, sans régularité, mais de temps en temps les petites infos. Et voilà, et donc il y a ce groupe Facebook, il y a Twitter. Moi je suis Alexandre et il travaille dans le milieu du cyclisme, donc il rencontre pas mal de gens un peu tout le temps. Moi je suis journaliste à Libération, donc vous pourrez peut-être à l'occasion me voir écrire un peu sur le vélo aussi. Voilà, donc il y a un peu tout ça, mais en tout cas il n'y a pas de projet collectif du tout. Enfin, encore une fois, le site s'est arrêté la semaine dernière. On n'en est pas encore à l'heure où on se dit putain, c'était quand même bien à l'époque, viens, on fait un truc, quoi.
Ça décompresse en tout cas. On peut continuer à suivre Baptiste et toute l'équipe sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter. On profite d'avoir Baptiste pour une dernière question quand même. Ce Paris-Roubaix donc, que tu as suivi, que tu as tweeté, en quelques mots, qu'est-ce que tu en retiendras?
J'en retiens je retiens un truc, c'est que aujourd'hui, il est quand même de plus en plus compliqué quand on n'est pas sprinter de gagner une course, parce que même les sprinters se mettent à gagner tout seuls. Degen Kolb, il revient tout seul sur une attaque et il gagne dans le vélodrome. Christophe, la semaine dernière au Tour des Flandres, qui gagne dans un sprint à deux avec Terpstra, mais voilà, ils sont deux pour la gagne, donc ils gagnent pas du tout au sprint. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus vraiment de coureurs. Quand on regarde les spécialistes des Flandres, il y a plus personne qui a pas une bonne pointe de vitesse. C'est vraiment devenu un truc indispensable et l'atout ultime, c'est-à-dire que les meilleurs coureurs arrivent à gagner parce que ils sont dans les 5-10 meilleurs et qu'en plus Ils ont la méga pointe de vitesse. Voilà, Christophe Degenkolb, c'est quand même des mecs qui gagnent des sprints massifs sur les grands tours. Ils gagnent des sprints massifs sur des classiques comme je sais pas moi Paris-Tours ou Milan-San Remo, et qui arrivent à gagner sur un parcours aussi difficile que Tour des Flandres en étant dans les deux meilleurs de l'épreuve, ou une course de la difficulté de Paris-Roubaix en étant dans les 4-5 meilleurs, parce qu'après il y a un petit groupe qui est revenu derrière, ils étaient 7, mais voilà, il était dans le top 4 on va dire. Moi ça m'épate, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a 5-10 ans c'était forcément pareil. Je me rappelle même quand il me semble que le premier Tour des Flandres que gagne Paris-Roubaix le premier Tour des Flandres que gagne Tom Bonnen, excusez-moi,
oui.
Je crois qu'il bat dans un sprint à deux Life Host qui avait une pointe de vitesse proche de zéro.
Oui.
Voilà, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Voilà, donc
mais justement Bonnen quand même,
il y a ces gens là qui sont rapides aussi, quoi, donc c'est devenu l'arme indispensable.
Mais quand même, Bonnen à ses débuts, c'était un peu ça quand même. Il brillait sur les sprints massifs aussi.
Voilà, c'est un peu le prototype. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les spécialistes des classiques flandriennes, c'est des Bonnen.
Ouais.
Christophe, c'est Bonnen. Degenkolb, c'est Bonnen. Démarre, si un jour il arrive à passer le cap supérieur, c'est Bonnen. Voilà, tous ces mecs-là, ils sont vraiment rapides. Et je me demande comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à parce que regardez même un Cancellara. Cancellara, il va très vite au sprint. Il fait quand un Milan-San Remo, ça arrive à l'an dernier, quand ça arrive à 30 ou 40 pour la gagne, il fait 2. Ou 3, je sais plus, mais bon voilà, il est là dans un sprint massif aussi, il a une très bonne pointe de vitesse.
Et donc, si j'ai bien compris, Lars Boom et Van Mark, c'est Leif Ost.
Bah ouais, un peu, parce que, mais Van Mark va vite, hein, faut se méfier de Van Mark, et c'est un peu, voilà, c'est parce qu'il tombe sur des mecs qui vont super vite, mais Van Mark, il a déjà battu Bonnen sur le Newsblad, hein, donc c'est pas vrai. Non plus rien, au sprint, je veux dire. Donc voilà, par contre, c'est vrai qu'un Lars Boom, bah voilà, la seule fois qu'il a gagné sur des pavés dans sa vie, entre guillemets, c'était autour de France, il était tout seul. Est-ce qu'il arrivera un jour à gagner autrement que tout seul? J'y crois pas trop. Ou alors, il faut qu'il arrive face à Van Avermaet, qui de toute façon fait toujours deuxième, et face à, je sais pas moi, Van Den Berg, qui a pas de pointe de vitesse non plus, voilà.
Donc en fait, on a plus vraiment de sprinteurs, on a vraiment des punchers sprinteurs, mix des deux, quoi.
Ouais, ouais,
vraiment des coureurs qui sont modifiés.
Les sprinteurs, parce que Christophe, c'était, moi je me rappelle très bien, Christophe quand il est passé pro, c'était un sprinteur, Degenkolb, pareil. Et même un Matthews, si on regarde un Matthews qui sera à mon avis pas loin de la gagne à l'Amstel dimanche, c'est voilà, de plus en plus les sprinteurs aujourd'hui sont devenus des prototypes de mecs qui non seulement vont hyper vite au sprint, mais en plus sont capables de faire autre chose. Et d'ailleurs, les purs sprinteurs, ça existe plus trop. Un mec comme Andrea Guardini par exemple, qui passe par un pont d'autoroute, il gagne très peu au sprint, il gagne une fois de temps en temps. C'est devenu de plus en plus compliqué pour de n'exister que par ça.
Bon, et
c'est ce que je disais.
On, plutôt que de lire les articles, on l'appellera donc pour avoir
exactement
son avis. Hein,
avant de le lâcher, peut-être quand même, du coup, t'as commencé déjà en parlant de l'Amstel, mais les Flandriennes, c'est fini. Les Ardennaises, ouais. On suit qui?
Moi, je vois très très gros comme un camion Simon Yates remporter la Flèche.
Carrément, ouais.
Ouais. J'étais le meilleur dans le col d'Aïa, les terribles pentes d'Aïa sur le Tour du Pays Basque.
Ouais, il a marché fort.
À mon avis, il sera vraiment là. En plus, il sera pas forcément le plus surveillé sur la Flèche. Après, voilà, il y a Purito évidemment qui est toujours là, mais j'ai l'impression que sa victoire est un peu en trompe-l'œil au Tour du Pays Basque. Alors, il est revenu à un énorme niveau, ça y a pas de souci, mais j'ai pas l'impression qu'il ait quand même ce jump qui faisait que sur les pentes à 25%, il y avait personne dans sa catégorie. Et parce que voilà, Yates était meilleur que lui sur ces pentes-là à Aïa. Et du coup, sur la Flèche Wallonne, alors l'expérience peut faire qu'il peut quand même gagner. Il connaît mieux le mur de vie que Yates, mais voilà, j'y crois assez fort. Et mon autre pari, c'est un peu franco-français, mais je sens très très bien Tony Galopin sur l'Amstel.
Ouais, ça ferait du bien parce que là, les Français sont pas à la fête sur ces classiques quand même.
C'est vrai. Mais j'ai trouvé sur des pentes pas du tout à son avantage au Pays Basque. Je l'ai trouvé très bon. Et Tony Galopin, c'est un coureur qui cible souvent très bien ses objectifs. Il se rate assez peu quand il vise quelque chose. C'est mine de rien dans la nouvelle génération française. Celui, à part Pinot qui a fait troisième du tour, celui qui a affiché le plus de garanties, il a quand même gagné l'étape du tour, était en maillot jaune, il a gagné la classique à Saint-Sébastien, il fait sixième des mondiaux, il a passé les Flandriennes pour arriver plus fort et plus frais sur les Ardennaises après l'expérience de l'an passé où il avait tenté les deux et où il avait réussi zéro des deux. Et du coup, je le vois très bien, sachant que la Flèche est pas vraiment pour lui, c'est un peu trop pentu. Liège, c'est toujours un peu compliqué, même si Simon Gerrans l'a gagné, il a priori pas grand chose à venir en grimpette à Gerrans. Et voilà, l'Amstel, c'est vraiment, à mon avis, un parcours pour lui, à condition qu'il la joue à la Kreuziger, c'est-à-dire qu'il n'attende pas la dernière ascension de Koberg, où là c'est sûr qu'il y aura toujours un mec plus meilleur que lui dans le punch. Mais voilà, s'il part dans l'avant-dernière ascension, qui est pas très loin de l'arrivée non plus, c'est là que Kreuziger était parti, je crois, ou un peu avant même, il y a 2 ans maintenant. Et c'est dans un coup comme ça aussi que Galopin peut faire quelque chose. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé avec Galopin, c'est que quand il gagne une grande course, ce qui lui arrive assez souvent, il la gagne toujours seul. Galopin va vite au sprint, encore un. Mais en fait, quand il attend le sprint, il est toujours 4e, 5e, 6e, ce qui est très bien, mais ce qui est pas la victoire. Et quand il gagne des grandes courses, il en a gagné quand même 2-3. À chaque fois, c'est tout seul.
Bon, mais on va te remercier, Baptiste. En tout cas, c'était un beau moment de vélo, encore une fois, comme l'ont été ces 5 ans sur Vélo Chrono. Alors, on te dit merci et puis à bientôt.
Merci et bonne continuation à vous. J'espère que vous continuerez encore plus longtemps que nous.
on va voir ça.
On va essayer, écoute.
Ça pourrait s'arrêter pour les mêmes raisons. Bon, on verra ça. Allez, à plus tard, Baptiste. Salut.
Bonne soirée.
Merci. C'était donc Baptiste Boutier d'un Radio Vélo, notre ami de Vélo Chrono, qui était avec nous. On va appeler Seb Petit maintenant pour parler d'autre chose. Radio Vélo a testé pour vous, mais avant cela, la rétro de notre ami Philippe.
Philippe.
Eh oui, on va faire la rétro sur Paris-Roubaix 1967 et on se demandait si Eddy Merckx pouvait gagner cette course. L'équipe titrée Eddy Merckx peut-il gagner la 65e édition de Paris-Roubaix? Et en tout cas, qui n'allait pas la gagner, effectivement, après 26 km seulement de course, il a arrêté le vélo, il a arrêté aussi son chrono. C'était Jacques Anquetil. Jacques Anquetil qui a arrêté la course tout simplement parce que, avant le départ, il s'était disputé avec sa femme et sa femme lui avait dit, tu n'as rien à faire dans cette course. Donc voilà, il bâchait et puis après, il allait devenir un grand journaliste à la radio. Donc, peut-être une idée pour les jeunes de Vélo Chrono de venir un journaliste à la radio avec nous, peut-être, pourquoi pas. En tous les cas, c'était la première attaque, c'était Frank Pening qui était le premier attaquant de ce Paris-Roubaix, donc 1967, et puis après à Solène, kilomètre 163, il y avait une grosse chute, effectivement, une chute collective. Simpson, Aymar, Goffrod, Genet, Cadieu, Tombé, donc des grands coureurs. Et après Denain, au kilomètre 195, il y avait 24 hommes en tête. Desmets, Samensky, Altig, Merckx, je vous en ai parlé tout à l'heure, Gimondi, vous voyez des grands noms, Plancard, Poulidor, et mon Poulidor qui était pas mal chanceux, qui était dans le groupe de tête. Et effectivement, ça va être l'arrivée, c'est Jensen qui allait emporter ce Paris-Roubaix devant Van Looy et devant Rudi Altig. Rudi Altig, un Allemand, donc, mais qui ne gagnait pas cette année-là. Hier, c'est un Allemand qui avait gagné. Et Poulidor, pas si mal chanceux que ça, Poulidor content de sa course, qui terminait 7e de ce Paris-Roubaix 1967. Voilà.
Merci Philippe pour cette petite rétro. On va attaquer la chronique suivante avec notre ami Seb. Seb Petit qui est avec nous. Et est-ce que tu nous entends, Seb?
Et bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous nos auditeurs.
Bienvenue donc dans Radio Vélo.
Il faut lui mettre ça, la gadoue.
On peut lui mettre la chanson, la gadoue.
Est-ce qu'il y avait de la gadoue hier?
Non, samedi. Justement, non, il n'y avait pas du tout de gadou. C'était un peu comme sur Paris-Roubaix. C'est l'enfer des Landes. C'est passé dans la grisaille, mais sur un terrain très sec. Un peu trop sec, peut-être. Je vais vous en parler dans un instant. Mais c'était une découverte pour moi. Donc, j'ai testé ça. Donc, certes, c'était pas l'enfer landais, comme vous avez certainement pu en parler un petit peu avant. Mais c'était autre chose sur des chemins forestiers.
D'accord, donc c'est une épreuve qui se déroule à quel endroit, qui fait combien de kilomètres?
Alors, l'Enfer des Landes se déroule à Pender. Pender, c'est...
D'accord, à côté de Casteljaloux.
Voilà, exactement, c'est le club de Casteljaloux qui organisait ça. C'est une épreuve qui se déroule en deux boucles, une première boucle de 43 km 500 et une deuxième boucle de 37 km. Donc ça fait une course qui fait un tour des 80 km. Et qui, comme Paris-Roubaix, en fait, a des secteurs. Alors là, c'est pas des secteurs pavés, c'est des secteurs sur piste forestière. Il y a 6 secteurs qui se suivent sur le. C'est les mêmes secteurs sur la première et la deuxième boucle, sauf que sur la première boucle, il y a un petit peu plus de route pour se mettre en jambes au départ. Par contre, voilà, là, on rentre sur des chemins forestiers. Alors avec du sable, avec de la terre, avec des cailloux également. Pas mal de galets et donc ce qui fait un peu le charme de cette course et le fait que ce soit une course atypique. C'est vrai qu'on n'en a pas trop à notre niveau. On voit chez les pros Paris-Roubaix, bien entendu, qui est forcément très connu, le Trobriand un petit peu en Bretagne également, Mais vers chez nous, dans le sud-ouest, bien que Julien, t'as pu connaître toi dans le passé du côté de Tarbes, je crois qu'il y avait une course qui ressemblait un petit peu également.
Oui, de mémoire, oui, mais il y a bien longtemps,
Il y a bien longtemps, je crois que c'était l'enfer Bigourdan, il me semble, quelque chose comme ça en FFC à l'époque. Donc j'ai pu aller à Pender samedi. J'avais préparé le vélo, donc là c'est vraiment j'avais pris un vélo un petit peu particulier de cyclocross sur lequel j'avais monté des pneus route en section de 28. Donc je m'étais préparé à toute éventualité. J'essayais je partais pour découvrir, hein, mais j'essayais de faire du mieux possible. Et c'est vrai que j'étais un petit peu surpris. Alors pas mal de coureurs arrivaient avec des vélos de cyclocross, arrivaient avec beaucoup de suiveurs ou de supporters. Et j'ai compris par la suite que c'était très important. On peut le voir aussi sur Paris-Roubaix, bien entendu, c'est toujours le meilleur qui gagne. Mais dans ces courses-là atypiques, il y a toujours, et peut-être encore plus que sur les autres courses, un phénomène chance, une part de chance qui rentre en jeu. Éviter la chute, éviter les problèmes mécaniques, la casse du matériel ou les diverses crevaisons. Et malheureusement, samedi, donc la course est partie très très vite. Une première échappée s'est formée pratiquement dès les premiers mètres de la course. 9 coureurs sont partis en tête. Moi j'ai pas pu prendre le groupe de tête, j'étais mal positionné, donc j'étais un petit peu loin pour réagir. J'ai réussi à partir dans le contre. L'entente était pas forcément très bonne, donc on s'est fait reprendre. Et on arrive dans le premier secteur forestier au bout de 12 kilomètres à peu près, donc ça faisait déjà quand même pas mal de kilomètres qu'on était parti. Le peloton avait eu le temps de s'étirer. On était environ 70-80 coureurs au départ. Et dès les premiers mètres, dès les premiers secteurs forestiers, le rythme s'est accéléré encore plus. Le positionnement était très important, encore plus que sur une autre course où même si on est dans une bordure, on arrive un petit peu à s'accrocher, à remonter, et en se positionnant correctement, on arrive à suivre. Mais là, c'est encore plus important. Et puis ensuite, il faut éviter tous les pièges du chemin, que ce soit les cailloux, le sable, comme j'ai dit, parce que ça peut occasionner pas mal de chutes. On arrive quand même sur des secteurs, sur les secteurs forestiers, on roule entre 30 et 35 à notre niveau. C'est quand on arrive dans du sable, ça freine forcément très rapidement. Et malheureusement, pour moi, la course a été assez rapide puisque j'ai eu une double crevaison. Je n'ai pas pu éviter un trou au bout du deuxième kilomètre du premier secteur. Et donc, je me suis retrouvé sur le bord de la route à attendre les voitures dépanneuses. La course était finie pour moi. Donc, je suis un petit peu déçu de cette course sur ma course personnelle. Après, pour moi, c'était très intéressant de découvrir cette course atypique, de voir un petit peu comment ça se passait, et puis de voir aussi, de se rendre compte de l'importance du matériel, d'une part, de l'entraînement après qui est très spécifique également, et puis après de toute l'organisation qu'il peut y avoir autour d'une course telle que celle-ci. C'est vrai que là, il y avait pas mal, j'ai eu l'occasion donc de finir la première boucle de 43 km dans la voiture balai, malheureusement, et j'ai pu voir sur chacun des secteurs des voitures de club avec des gens comme sur Paris-Roubaix, avec des roues, avec des bidons, avec des clés à laine, avec des caisses à outils sur le bord des routes. Et c'était assez amusant de voir ça. C'était la même ferveur un petit peu que sur le Paris-Roubaix, alors avec un moindre échelon, mais c'était la même chose. Donc c'était une très bonne expérience. Malheureusement assez courte pour ma part, mais c'était une très bonne expérience que je renouvellerai certainement dans le futur, mais cette fois-ci j'arriverai avec un peu plus de matériel.
C'était donc la chronique J'ai testé pour vous de notre ami Seb. Julien, tu voulais rajouter quelque chose?
C'est assez atypique comme épreuve parce que on n'est pas habitué à voir ça comme Paris-Roubaix. Hein. Bon, autant des pavés dans certaines régions, voire pays, comme on a en ce moment les Flandriennes, les Ardennaises, il y en a pas mal, mais nous, chez nous ici, voilà, il n'y a pas Il n'y a pas grande course comme ça, ou à part ce que du bitume, du goudron, ou du cyclocross, après on roule, quoi. Donc c'est vrai que c'est des courses qui sont assez intéressantes. Et est-ce qu'on voit des gens qui sont devant, qui sont habitués à faire du cyclocross, des activités comme ça, ou c'est vrai?
Alors moi, j'ai été très étonné. Je pensais être un des seuls avec un vélo de cyclocross. Finalement non, il y avait beaucoup de coureurs avec des vélos de cyclocross et même avec des, bon, les roues de cyclocross bien entendu, mais même les pneus et les boyaux de cyclocross.
D'accord. Hein. Mais est-ce que au niveau des coureurs, ceux qui sont devant, on retrouve des gens qui sont adeptes du cyclocross et du VTT, ou on a quand même des routiers qui sont là?
Ouais, il y a un petit peu de tout. Juste pour parler des résultats rapidement, il y a des coureurs de la région qui ont brillé sur cette course-là, puisque c'est Laurent Rémy de Ampalo qui remporte la course en première catégorie, avec Damien Etchevarria qui finit troisième également d'Ampalo. Donc c'est des personnes qu'on a l'habitude de voir sur les cyclocross aussi l'hiver. Il y avait Dylan Valade du club de Tonnes, donc d'Aquitaine, qui, je crois aussi, brille notamment l'hiver en cyclocross. Donc c'est des gens, oui, qui ont l'habitude de faire du cyclocross. Après, qui participaient, il y avait bien entendu des routiers également.
C'était en quelle fédération, en FSGT?
Ah là, c'était en UFOLEP.
En UFOLEP, d'accord.
Je n'avais pas précisé, oui. C'était en UFOLEP. C'est vrai qu'en FFC, il n'y a plus trop de courses organisées comme ça. On parlait tout à l'heure de l'enfer Bigourdan, mais il n'y en a plus trop, ouais.
Bon, mais Seb, on va te remercier, et puis tu n'hésites pas, bien sûr, à revenir quand tu veux en studio.
Eh bien, oui, pas de souci. Alors là, voilà, la semaine prochaine, je vous prépare aussi une autre petite chronique. J'aurai l'occasion de vous en parler dans 15 jours.
Ça marche. Ben, à bientôt, Seb. On
merci,
va
Seb.
À bientôt.
Merci, ciao.
Salut. Ciao. Et donc, on remercie Seb, bien évidemment, pour cette chronique toujours sympa qui nous donne un autre œil sur le vélo. Et pour terminer les dernières minutes, eh bien, peut-être un clin d'œil aux résultats, aux faits marquants du week-end, du côté des amateurs notamment. On avait eu il y a 15 jours Pavel Sivakov au téléphone, je me souviens, et il a encore cartonné
Ouais, il a encore bien marché sur une épreuve du côté de Obona, si je me trompe pas.
Exactement.
Non, ouais, il est vraiment en forme en ce moment. Bon, il nous l'a dit, de toute façon.
Avec la flèche ardéchoise.
Avec la flèche ardéchoise, donc il y avait une épreuve. Il y avait un contre-la-montre, si je me trompe pas. Mais bon, il gagne le général. On a nos Midi-Pyrénées qui sont bien placés avec la quatrième place avec Santinos. Maxence Moncassin qui prend la dixième place avec derrière Corentin. Voilà, donc ça a bien gazé pour nos juniors Midi-Pyrénées. Un petit clin d'œil aussi à un ancien Midi-Pyrénées qui est Lilian Calmejean. Même si on se bagarre en crosse, mais bon, c'est comme ça. Il remporte quand même le triptyque des Monts et Châteaux, une épreuve par étape en Belgique.
Et oui, c'était il y a quelques jours, mon classe, pas parler.
Voilà, de classe 2.2, avec un très bon tir groupé de la formation Vendu qui prend la première, la 6e, 7e et 8e place. Vraiment chapeau à cette formation qui, vraiment, je peux penser que sur la ronde des arts, il va encore.
Ça cartonne bien. Et du côté des écoles de vélo, c'était la reprise aussi. On
il
va
y
pas
avait...
citer tous les résultats.
Non,
mais
pas citer les résultats. Vous avez sur le site de la SV du Mur Cyclisme, il y avait donc Saint-Gaudens ce week-end dernier. Ce week-end, il y avait le Grand Prix d'Albi. Voilà, donc on retrouve quasiment toujours les mêmes devant, de plus en plus de jeunes qui sont là au départ, donc voilà, de belles épreuves. La prochaine épreuve qui comptera pour le trophée, ce sera le 1er mai à Saint-Juéry. En attendant, il n'y aura pas trop grand chose parce qu'il y a, comme on le disait, moins de courses, donc forcément il n'y a pas grand chose.
Il y a moins de courses cette année pour les jeunes, Julien?
Bon, il y a moins de courses, on va dire que le calendrier est un peu plus échelonné, mais bon, ouais, c'est un peu plus difficile.
D'accord, toujours difficile, bien évidemment. Les organisateurs se donnent beaucoup, on va suivre eh bien les Ardennaises du côté des pros dans les prochaines semaines. Baptiste Boutier,
ça attaque dimanche, là. Hein, l'Amstel, ça y est, c'est dimanche. Hein.
Exactement.
Alors qui?
Eh bien, notre ami Baptiste Boutier de l'ex Vélo Chrono Team nous a bien vendu ça. C'est vrai que Matthews est un client intéressant pour cette épreuve. Hein. Il a tous les ingrédients.
Donc, il nous
oui,
a parlé,
lui aussi, il est
nous
pas
a,
mal.
Nous a parlé, il nous a parlé de galopin. On devrait retrouver Benoît justement sur ce type de terrain.
On va pas le faire courir toutes les semaines quand même.
Ouais non mais c'est il est prévu hein sur.
Il marche fort. Il marche assez fort. Hein.
Normalement la seule qui devrait pas faire ça va être la flèche parce que le mur est un peu dur pour lui. Encore quand on voit ce qu'il faisait sur la ronde de Lizard, on se demande ce qui est trop dur pour lui mais voilà peut-être pas la flèche mais sinon il sera là. Et puis voilà, on va retrouver aussi les habituels cadors normalement des Ardennaises. Hein. On devrait retrouver les Gilbert, les Valverde, toute la clique quoi.
Les Pourrito, le champion du monde Katowski, tout ce beau monde en tout cas.
Katowski sur un parcours comme l'Astel peut être très 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 fort aussi, je pense.
Ouais. Et puis vu que Sagan n'a pas, c'est pas trop. Hein.
Sagan, il est pas bien, il est pas bien.
Et pourtant, il est bien avec tonton Oleg là-bas. Hein. Ils font des belles petites fêtes. Hein, sans...
Justement, peut-être un peu trop de vodka et pas assez de vélo.
Bon, on verra ça. L'émission touche déjà sa fin, c'est ça, Julien ?
Ben oui, monsieur.
Bon, le podcast arrive bien évidemment dès la fin de soirée. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine. Hein, semaine de vélo, comme d'hab.
Comme d'hab, messieurs, revenez-nous en forme la semaine prochaine.
Bonne semaine,
merci,
à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Retourne-la.